France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des parents indemnisés car leurs enfants n'ont pas eu de prof de français pendant 6 mois. Ça se passe à Amboise, décision du tribunal administratif. 800 euros par famille et pour la première fois, le préjudice moral des parents est reconnu. Explication à suivre. Les tarifs de l'électricité en France vont-ils augmenter de 20% l'an prochain? Alerte de l'UFC Que Choisir. Nous nous demanderons ce qu'il en est. Et nous verrons que les produits frais, fromage, viande, fruits et légumes, sont surtout achetés dans notre pays par les plus de 60 ans. À suivre encore, les vrais chiffres du bras de fer France-Algérie sur l'immigration. Bonjour Timour Özturk.
Bonjour Jérôme.
Beaucoup de visas accordés, dit le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi?
Plus de 100 visas accordés à des Algériens pour un laissez-passer consulaire délivré par l'Algérie pour reprendre ses ressortissants expulsés. L'ordre de grandeur est le bon, mais on compare ici deux données qui n'ont a priori rien à voir.
À tout de suite pour vos explications. L'accord États-Unis-Ukraine sur les minerais rares qui se précise. Des chenilles processionnaires déjà très nombreuses sur la Côte d'Azur et cette niçoise a failli perdre son chien.
Les chenilles, pour se défendre, ont libéré leurs aiguilles et ces aiguilles sont rentrées dans la peau et font une nécrose. On l'a entendu hurler. 10 minutes après, on l'a trouvée sous la table en train de baver, quasi inconsciente. En un quart d'heure, j'étais chez le vétérinaire et il a pu me la sauver.
Reportage à suivre. À partir de 13h30, en plein salon de l'agriculture, on s'intéresse aux traces laissées par le remembrement, ces regroupements de parcelles degré ou de force dans nos campagnes à partir des années 60. Traces sur les hommes et sur les paysages. L'historien Léandre Mandard est notre invité. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. 13h50, c'est la France. Beaucoup de fêtes foraines en ce moment, mais de moins en moins. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Juste avant 14h, c'est une chanson. L'exploratrice suisse Sarah Marquis et la pop d'Avril Lavigne. Et puis dans 20 minutes, un groupe qui joue de la musique avec des gants en latex et des bouteilles vides. Vous verrez, c'est étonnant. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
15 millions d'heures d'enseignement sont perdues chaque année en France en raison de l'absence d'enseignants non remplacés. C'était l'an dernier l'estimation du gouvernement. Et cette situation a poussé une dizaine de familles d'enfants scolarisés lycée Léonard de Vinci à Amboise en Indre-et-Loire à saisir la justice pour faire condamner l'État, coupable à leurs yeux de ne pas assurer l'obligation légale d'enseignement. En 2022-2023, leur prof de français avait été absente pendant près de 6 mois, sans remplaçant. Eh bien, le tribunal administratif d'Orléans vient de condamner l'État à verser 800 euros à chacune de ces familles au titre du préjudice moral et financier. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour Jérôme.
On va voir avec vous dans un instant ce que peut changer cette décision. Mais avant cela, la réaction de l'un des pères de famille concernés. Il est avec Tristan Barraud.
500 euros pour le préjudice financier, 300 pour le préjudice moral. Pourtant, Sébastien Boisult, un parent d'élève, ne se réjouit pas.
C'était pas une intention vénale. Hein. Les retombées, de toute façon, elles sont mineures. Les préjudices sont réels. Il y a des élèves qui arriveront à compenser, d'autres qui arriveront pas. Pour les meilleurs, le défi a pu être levé avec le coup de pouce des parents, évidemment. Pour la majorité des élèves, la difficulté était un fardeau supplémentaire.
Il y a 2 ans, Eva et ses camarades n'ont pas de professeur de français pendant 4 mois en classe de seconde. 58 heures de cours non assurées. Certaines familles aisées compensent avec un professeur particulier, mais la majorité, non.
C'est une porte ouverte sur la ségrégation par l'argent, ce à quoi le service public est supposé pallier. C'est préserver cette égalité des chances. Une absence de 4 mois, ça remet en cause littéralement des résultats au bac.
La classe de seconde est essentielle. En français, les épreuves du bac sont anticipées. Elles ont lieu l'année d'après, à la fin de la première. Sébastien Boisult a bien conscience que les profs absents, ça ne concerne pas que le lycée d'Amboise.
Ce problème de remplacement, en fait, c'est un serpent de mer dans l'éducation nationale. C'est loin d'être une priorité politique aujourd'hui encore. Hein. On le voit, on a échappé de peu à une suppression de 4000 postes d'enseignants pour la rentrée prochaine.
Seule la dizaine de familles qui ont déposé plainte contre l'État il y a presque 2 ans sont indemnisées, pas les autres.
Explication ici Touraine. Sarah Mansoura, on vous retrouve. Sarah, c'est pas la première fois que l'État est condamné dans ce type d'affaires. En quoi cette décision est-elle importante?
Eh bien parce que c'est la première fois que la justice ajoute dans sa condamnation une indemnité pour le préjudice moral subi par les parents d'élèves. En d'autres termes, le tribunal administratif d'Orléans considère que les familles ont elles aussi eu à pâtir psychologiquement des carences de l'État. C'est une grande avancée selon maître Joyce Pitcher, avocate des parents d'élèves rassemblés dans le collectif On veut des profs, créé il y a 3 ans.
On prend
en compte effectivement la situation des parents et en fait on considère que ce préjudice moral il est constitué par le temps qu'ils ont pu passer auprès de leurs enfants. Donc c'est un vrai investissement personnel et l'inquiétude qui est vraiment palpable auprès de tous nos clients que les parents peuvent avoir sur les apprentissages de leurs enfants. On espère que les autres tribunaux vont suivre.
Faire jurisprudence donc et mettre un peu plus à chaque condamnation la pression sur l'État pour remplacer les enseignants. Urgence soulevée de longue date pour Sophie Vénétité, secrétaire générale du premier syndicat du secondaire.
Ce que j'espère pour le SNES-FSU, c'est que cette décision de justice qui s'ajoute à d'autres, qui s'ajoute à toutes les alertes qu'on a déjà pu faire sur le manque de professeurs et ses conséquences, soit enfin prise au sérieux par le ministère de l'Éducation nationale. Il va falloir enfin que le ministère en tire les bonnes conclusions.
Et cette pression sur l'État pourrait encore se renforcer dans quelques semaines, puisque le 18 mars prochain, le tribunal administratif de Paris doit se pencher sur un nouveau dossier similaire, avec cette fois 13 familles plaignantes.
Merci Sarah Mansour. Pour ce décryptage, combien allons-nous payer notre électricité ? L'an prochain, le système qui régit la commercialisation de la production nucléaire d'EDF, ce système arrive à son terme à la fin de l'année. Tarif réglementé car EDF, dont le parc nucléaire a été construit avec l'argent public, ne nous vend pas son électricité au cours du marché. Le gouvernement et EDF finalisent en ce moment ces nouvelles règles et l'association UFC Que Choisir s'alarme. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Elle annonce une hausse massive des tarifs, plus 20% en moyenne.
Oui, dans cette étude, l'association de consommateurs fait un calcul théorique. Si la réforme des prix de l'électricité s'appliquait dès cette année, quel serait l'impact sur nos factures ? Eh bien, elles augmenteraient de 250 euros en moyenne par foyer, constate Antoine Autier, directeur des études de l'UFC. Il dénonce un effet inflationniste pour cette réforme.
La nouvelle régulation est moins protectrice de l'intérêt des consommateurs que celle qui a cours encore cette année. EDF va conserver encore beaucoup de profits grâce à la vente sur les marchés de sa production nucléaire et on considère que la rente nucléaire doit revenir beaucoup plus que ce qui est prévu actuellement aux consommateurs.
Si les prix s'envolent sur les marchés de gros, EDF devra en effet redistribuer une partie de ses profits. Quand et comment ? À ce stade, on n'en sait rien. Pour Bercy, le calcul ainsi réalisé par l'UFC est biaisé. Les tarifs régulés resteront stables l'an prochain.
L'enjeu, en fait, Delphine, c'est de savoir qui va payer notre futur parc nucléaire.
Oui, c'est vrai. À partir de 2026, EDF va vendre la totalité de sa production nucléaire au prix des marchés de gros, 70 euros le mégawatt-heure, alors qu'aujourd'hui, il vend la moitié de sa production à 42 euros le mégawatt-heure. Le gouvernement a fait un choix. Le problème, c'est qu'il ne l'assume pas, estime Julien Tchernia, le président de l'ANOD, l'association des fournisseurs alternatifs.
Nous choque dans cette affaire, c'est que le gouvernement devrait dire, bon ben voilà, nous EDF a gagné 10 milliards en 2023, 14 milliards en 2024, on veut que ça continue, ils ont besoin d'argent pour construire les EPR, on trouve que c'est important les EPR, et donc on augmente le prix de l'électricité pour les Français.
Lors de la construction du parc nucléaire actuel entre 1974 et 1984, la facture d'électricité des Français, rappelle-t-il, a augmenté de 15% chaque année.
Delphine Simon, là encore, il est question de pouvoir d'achat. Mais peut-être pas uniquement. Quels sont les Français qui achètent des produits frais traditionnels, c'est-à-dire de la viande chez le boucher ou en grande surface, du poisson, des fromages à la coupe, ou encore des fruits et légumes ? L'entreprise de sondage Kantar a posé la question et il en ressort que la moitié des dépenses sont réalisées par des consommateurs de plus de 60 ans. On savait que les jeunes se détournaient des produits frais, mais pas dans ces proportions. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture, vous avez pu interroger des représentants de la profession ce matin. Ils confirment, ils partagent ce constat ?
Alors oui, et pareil même pour les passants. D'ailleurs, exemple, les produits frais sont une des bases de l'alimentation de Renée, 70 ans, originaire des Hautes-Alpes. Elle va au marché deux fois par semaine, et même si ça a un coût...
C'est meilleur, c'est la qualité. On peut mieux les cuisiner.
Même avis pour Caroline, 71 ans, venue des Pyrénées-Orientales.
J'essaye au maximum de privilégier les produits locaux et frais.
Alors le discours n'est pas le même. Du côté de Julien, 21 ans, verre de vin à la main, voici sa réponse quand on lui demande s'il achète des produits frais et les cuisine.
Pas vraiment. Bah, j'ai pas trop le temps d'y aller. J'achète beaucoup de conneries. J'ai déjà dû tout faire.
Juste à côté de lui, Kylian, un de ses copains rigole. Le jeune homme de 18 ans le comprend parfaitement.
J'habite avec ma sœur. Si ma sœur a fait pas à manger, je ferai pas à manger. De toute façon, quoi qu'il arrive, les courses et faire à manger, j'aime pas ça.
Des témoignages qui ne surprennent pas Christine, représentante des coopératives laitières de l'Ain.
Au quotidien, c'est plus les gens qui ont l'habitude de cuisiner, les personnes d'un certain âge, qui vont acheter des produits.
Mais pour elle, tout est une question d'éducation et il faut montrer le travail qu'il y a derrière chaque produit.
Je vois quand je fais des animations dans les écoles, les enfants me disent c'est quelle couleur de vache qui fait ton fromage. Ils pensent que le comté sort de la vache. Je pense qu'il y a eu le problème de la pub de la vache Milka.
En tout cas, ce changement de comportement selon les générations inquiète Alexandre, vendeur de différents produits frais bretons.
Les clients de mes parents disparaissent petit à petit. Et la nouvelle génération, c'est plus compliqué, on les voit moins, donc ça pose question pour l'avenir.
Et lui aussi le répète, le mot d'ordre, c'est l'éducation.
C'est ça, il y a manifestement du travail d'éducation à faire, si j'en crois les témoignages que vous avez pu recueillir. Ça tombe bien, à 13h30, nous sommes avec un spécialiste de l'agriculture. Il sera notre invité. Merci Luc Chemelin, en direct du Salon de l'agriculture, avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Ces produits, l'agriculture française veut continuer à les exporter vers les États-Unis et nos agriculteurs craignent l'instauration de droits de douane. Hier, le président américain Donald Trump n'a pas réitéré sa menace lors de sa conférence de presse commune avec Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Mais le président français, lui, en a parlé sur place à Washington. Claude Guibal.
C'est presque devenu quotidien chez Donald Trump l'annonce de nouvelles taxes sur les produits entrant aux États-Unis. Chine, Mexique, Canada, mais aussi des secteurs spécifiques comme l'acier, l'aluminium. L'Union européenne est aussi dans sa ligne de mire, les exportations européennes étant plus nombreuses que les importations américaines. La faute, selon Donald Trump, à un traitement inéquitable des entreprises américaines. Emmanuel Macron s'est donc fait sur Fox News le porte-voix voix des Européens pour éviter une guerre commerciale. Ce n'est pas vraiment le moment d'augmenter les droits de douane, explique-t-il, parce que l'urgence, c'est plutôt d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale ? Vous ne pouvez pas mener de guerre commerciale à la Chine et l'Europe en même temps, martèle Emmanuel Macron, qui a aussi longuement expliqué à Donald Trump le principe de la TVA à 20%, une taxe payée par tous, mais que Donald Trump considère comme un droit de douane supplémentaire et injuste.
Claude Guibal à Washington pour Inter. Il faut dire que l'essentiel de l'entretien d'hier soir entre les deux chefs d'État a tourné autour de la fin de la guerre en Ukraine. Avec cette question posée par Emmanuel Macron, qui va garantir la sécurité du pays en cas de paix avec la Russie ? Le président américain pose comme préalable un accord avec l'Ukraine pour exploiter ses terres rares. Un accord très proche, selon lui. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour.
Et en effet, ces négociations avancent bien, elles sont même dans leur phase finale.
Exactement, c'est ce qu'ont fait savoir dès hier les autorités ukrainiennes, notamment par la voix de la vice-première ministre, Olga Stefanichina. Nous nous engageons, a-t-elle déclaré sur X, à terminer cet accord rapidement pour procéder à sa signature. Le site d'information américain Axios, de son côté, s'est procuré une ébauche du document qui peut donc évoluer. Mais selon ces informations, Washington et Kiev seraient sur le point de signer un accord portant sur des centaines de milliards de dollars.
Est-ce qu'il y a dans ce document, Virginie, à ce stade, des garanties pour la sécurité de l'Ukraine ?
Non, en tout cas, aucun engagement militaire. C'est ce que note aujourd'hui le journal ukrainien Kyiv Independent. Alors, sans plus de détails pour le moment, les États-Unis exprimeraient dans ce document, je cite, « leur désir de garder une Ukraine libre, souveraine et sécurisée », mais on ne sait pas comment. Alors cet accord comprendrait la création d'un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, géré conjointement par Washington et Kiev, et destiné à investir dans l'exploitation minière, mais aussi les ports. Toujours selon ce texte, les États-Unis seraient en mesure de rembourser une partie de leurs coûts associés à la défense et à la reconstruction du pays. Et tout pourrait se passer très vite. Selon un responsable ukrainien resté anonyme, cité par Axios, l'accord pourrait être signé dès le 3 mars, soit lundi prochain.
Merci Virginie Pironon. Toujours autour des nouveautés et inquiétudes liées à l'arrivée au pouvoir aux États-Unis d'une nouvelle administration. L'Agence de sécurité sanitaire française, l'ANSES, s'inquiète du manque de transparence des Américains sur la grippe aviaire. Une soixantaine de cas humains de H5N1 ont été détectés outre-Atlantique. Le règlement sanitaire international impose aux pays d'échanger leurs informations sur la circulation des virus et il faut maintenant que les Américains le respectent, demande Gilles Salva, directeur général délégué du pôle recherche et référence de l'ANSES.
Avec l'arrivée de l'administration Trump qui a demandé à ces administrations d'arrêter d'échanger ces données pour certaines d'entre elles, évidemment, on va perdre une partie de l'information qui est cruciale pour nous puisque ce qui circule aux États-Unis pourrait circuler la saison prochaine en Europe. et on a besoin d'avoir ces informations pour savoir qu'est-ce qu'on va surveiller. Il y a deux virus principalement qui sont passés chez l'homme, des bovins à l'homme ou des oiseaux à l'homme aux États-Unis. Là, pour le moment, c'est une soixantaine de cas. C'est encore pas une pandémie. Si, par contre, ces virus venaient à gagner quelques mutations qui les rendent beaucoup plus inquiétants pour l'homme, il faudrait qu'on ait cette information pour renforcer notre surveillance, le cas échéant, sur ces mutations précises. Je le rappelle toujours, les virus n'ont pas de frontières.
Gilles Salva au micro de Sandy Dauphin, toujours à l'étranger. 11 années après sa disparition, les recherches ont repris pour retrouver l'avion du vol MH370, le vol de la Malaysia Airlines qui avait mystérieusement disparu des radars. C'était le 8 mars 2014 entre Kuala Lumpur et Pékin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné à Alger, les obligations de quitter le territoire français non appliquées, les influenceurs franco-algériens mis en cause. Chaque jour ou presque, une nouvelle affaire vient creuser le fossé qui sépare la France de l'Algérie. Nous parlerons dans un instant du dossier du Sahara occidental. Le président du Sénat français y est en visite. Avant cela, Mulhouse, trois jours après l'attaque terroriste qui a fait un mort, l'auteur présumé est un Algérien de 37 ans en situation irrégulière. Il est toujours en garde à vue. Timour Özturk, on vous retrouve. Vous avez appris, Timour, que le nom de cet homme figurait sur une liste de 30 personnes à reconduire en urgence vers l'Algérie, liste que les autorités françaises ont présentée ces derniers mois aux autorités algériennes.
Oui, et à deux reprises, la France a demandé à l'Algérie de reprendre le suspect de l'attaque de Mulhouse lors de rencontres entre Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, et la diplomatie algérienne, nous confie une source gouvernementale. Le suspect de Mulhouse faisait partie de cette liste d'Algériens en situation irrégulière, jugée particulièrement dangereux, mais Alger a refusé la requête française. Voilà qui montre les limites de la méthode diplomatique douce, estime cette même source gouvernementale.
Au-delà de ce cas, Timour, le ministère de l'Intérieur explique que la France accepte, je cite, beaucoup de visas d'Algériens et donne ce chiffre. Plus de 100 visas accordés par Paris quand Alger accorde un laissez-passer consulaire pour une expulsion vers l'Algérie. Que veulent dire ces chiffres? Est-ce que la comparaison au fond est pertinente?
Déjà, c'est le bon ordre de grandeur. L'an dernier, 250 000 visas délivrés à des Algériens contre environ 2000 laissez-passer consulaires émis par Alger pour ces ressortissants que la France veut expulser. Mais on compare ici deux chiffres qui n'ont rien à voir. D'un côté, des personnes en situation irrégulière. De l'autre, des visas accordés à des étudiants, des touristes, des gens venus voir leur famille. Dans plus de 9 cas sur 10, ce sont des visas de courte durée, moins de 3 mois, ou même des visas de transit pour circuler en Europe. Mais c'est la logique du rapport de force voulu par Bruno Retailleau, ministre et candidat à la tête de son parti Les Républicains, on le rappelle, avec la menace de baisser le nombre de visas délivrés à des Algériens si Alger ne coopère pas plus avec Paris concernant les expulsions.
Et avant un conseil interministériel de contrôle de l'immigration prévu demain, merci Timour Özturk. Dans ce contexte, un nouveau représentant français est en visite au Sahara occidental, ce territoire, ancienne colonie espagnole, située au sud du Maroc, revendiquée par le Maroc, mais dont l'Algérie défend, elle, l'indépendance. La semaine dernière, la ministre de la Culture, Rachida Dati, était sur place aux côtés des autorités marocaines. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Depuis hier, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est sur place. Que fait-il là-bas?
Alors, une visite d'école ce matin, puis de projets économiques et éducatifs cet après-midi. Rien qui ne paraisse exceptionnel et pourtant, c'est bien une visite historique. Première fois qu'un président du Sénat français, deuxième personnage de l'État, met les pieds à Laayoun, la ville la plus peuplée du Sahara occidental. Écoutez Gérard Larcher hier soir à son arrivée.
C'est un symbole que le présent et l'avenir des provinces sud, je reprends le terme du président de la République, ne pouvaient, j'allais dire, se construire et s'inscrire que dans le cadre d'une souveraineté du Maroc.
Les provinces sud ou provinces du sud, le terme n'est pas anodin, employé par Rachida Dati aussi il y a une semaine, c'est la terminologie exacte qu'utilise Rabat. La reprendre, c'est affirmer et confirmer l'engagement d'Emmanuel Macron pris en octobre devant le Parlement marocain de soutenir le plan du royaume, de faire de la région un territoire autonome mais sous souveraineté marocaine, contre la volonté, vous l'avez dit, des indépendantistes du Front Polisario, soutenus eux par l'Algérie, qui il y a 8 jours jour a durement commenté la visite de Rachida Dati, dénonçant, je cite, « l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle ». Entre Paris et Alger, cette nouvelle séquence ne devrait rien arranger.
Élodie Forêt pour ses précisions. À Marseille, deux personnes interpellées et placées en garde à vue après le jet de bouteilles de soda hier dans les jardins du consulat de Russie. Des détonations ont été entendues hier. Trois jours après son arrestation en Roumanie, le narcotrafiquant Mohamed Amra va être remis à la France, et ce, dans les prochaines heures. Voilà ce qu'indiquent ce matin les autorités roumaines à nos confrères de l'agence France Presse. Mohamed Amra a pourtant annoncé sa décision de faire appel de sa détention. Que savait la famille de Joël Le Skouarnec, l'ex-chirurgien jugé depuis hier par la cour criminelle du Morbihan pour des viols et agressions sexuelles sur 299 victimes de jeunes patients, la plupart mineurs au moment des faits? C'est l'une des questions posées aujourd'hui à Vannes, où vont être entendus Jean-Philippe Deniaux, les trois enfants et l'ex-femme de l'ancien médecin.
Il y a deux semaines encore, Marie-France Le Skouarnec affirmait dans la presse locale qu'elle n'a jamais rien su des crimes de son mari, ni même d'un quelconque penchant pédocriminel. Pourtant, dès les années 90, Joël Le Skouarnec écrivait dans ses carnets qu'elle lui a subtilisé ses écrits, elle ne pouvant être que sa femme. Et il confirmera d'ailleurs lors de son premier procès, il y a 5 ans, qu'elle savait, peut-être pas tout, ajoutait-il, mais en effet, elle savait beaucoup. Les trois fils du couple, qui ont apparemment été épargnés des perversions de leur père, l'ont décrit au cours de l'enquête entièrement consacrée à sa carrière de chirurgien, mais aussi dévoué à sa famille, indique aujourd'hui encore le fils aîné dans un message à France Info. Je pense qu'il a été emporté par ce vice et qu'il n'était plus en mesure de lutter contre son addiction, analyse-t-il. Mais les victimes soulignent que les activités pédocriminelles du chirurgien occupaient une grande place dans la maison familiale, avec la présence visible des cartons de carnet, des poupées et d'autres objets fétiches, et que c'est certainement une véritable chape de silence qui s'est imposée à la maison pour que ça ne se sache pas.
Jean-Philippe Deniaux à Vannes pour Inter. Des températures de plus de 20 degrés enregistrées ces derniers jours dans le sud de la France. C'est agréable certes, mais cela a aussi des conséquences sur la faune. Ainsi, les chenilles processionnaires colonisent le département des Alpes-Maritimes de plus en plus tôt, depuis même début février. Normalement, c'est plutôt fin mars. L'espèce a été classée invasive en 2022 et elle peut être dangereuse pour la santé des humains et des animaux. Emma Doé, vous l'avez constaté à Nice, une habitante a bien failli perdre son chien à cause de ses chenilles.
L'année dernière, dans le jardin de Julie, son husky a mangé 3 chenilles processionnaires.
Les chenilles, pour se défendre, ont libéré leurs aiguilles et ces aiguilles sont rentrées dans la peau et font une nécrose. On l'a entendu hurler et patatras. 10 minutes après, on l'a trouvé sous la table, en train de baver, quasi inconsciente. En un quart d'heure, j'étais chez le vétérinaire et il a pu me la sauver. Mais si je venais une demi-heure plus tard, elle était morte.
Et donc on lui a enlevé un petit bout de sa langue.
C'est tombé naturellement, ça a nécrosé. Elle a une petite langue en forme de cœur maintenant.
Son fils a lui aussi été piqué, visage rouge, gonflé, des démangeaisons durant 48 heures. Mais le problème, c'est que cette année, les insectes s'invitent plus tôt.
Disons qu'avant, c'était quelque chose qui s'étendait sur 2-3 mois. Maintenant, c'est presque la moitié de l'année. Ça commence beaucoup plus tôt, ça dure plus longtemps et elles sont plus nombreuses. Je suis envahie, c'est plein. Mais vraiment, comme jamais, ça l'a été. Hein.
Julie, après le problème, à bras-le-corps, fait installer un piège autour du pain, sauf qu'elle est toujours autant angoissée par ces insectes.
J'ai très très peur, effectivement. C'est attirant à l'œil comme ça, et on a envie de les toucher, hein, mes enfants. Je sais qu'ils iraient volontiers. Et oui, c'est très très stressant parce qu'ils ne se rendent pas compte du danger, et même mon chien, il retournerait, je pense.
Alors elle est prête, comme l'an dernier, à lui interdire l'accès au jardin pendant 4 mois.
Reportage ici Azur. Là, c'est une boisson qui sert plutôt à se réchauffer. Par exemple l'hiver, la chartreuse, cette liqueur produite dans le massif du même nom au nord de Grenoble depuis le milieu du XVIIIe siècle, c'est un moine chartreux qui avait élaboré sa recette à base de plantes. Et bien la plus vieille bouteille connue de chartreuse est mise en vente, vente aux enchères aujourd'hui. Ça se déroule chez Agut à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Vous vous trouvez dans cette maison d'enchères. Bonjour Juliette Mély.
150. Bonjour.
C'est une bouteille vieille de 180 ans.
Oui, en face de moi, il y a la photo grand format de cette fameuse bouteille de chartreuse, le clou de cette vente aux enchères. Le verre est abîmé, recouverte d'une pellicule de poussière, mais l'étiquette est bien visible. Pierre, 28 ans, représente un client qui est prêt à mettre le prix jusqu'à 20 000 euros pour l'obtenir.
Il n'y en a plus beaucoup, je pense qu'il en reste
très peu de trouvables. Elle n'est pas dans un état déplorable, ce qui est assez rare aussi. C'est vraiment des objets de collection. Et vu le peu de stock qu'il y a, quand on est passionné par la chartreuse, c'est un peu le Graal, quoi.
Quelques dizaines seulement sont en circulation. C'est parce que cette bouteille date des premières années de production de la liqueur, distillée entre 1840 et 1869 par les moines du massif de la Chartreuse. Pierre-Luc Nourry est directeur des vins et spiritueux chez Agut.
Cette période de production, effectivement, elle correspond à une période assez ancienne, au moment où le monastère était encore assez balbutiement dans la production généralisée de chartreuse, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est ça qui la rend très rare et très désirable.
Et si l'acheteur voulait l'ouvrir, théoriquement, la bouteille est encore buvable, à ses risques et périls.
Merci pour l'avertissement et pour le reportage, Juliette Mélie, en direct de cette maison d'enchères à Neuilly, tout près de Paris, avec les moyens techniques de Benjamin Troncin. Fini le maillot bleu pour le plus jeune des frères Karabatic, Luka Karabatic, champion olympique de handball en 2021, annonce ce matin sa retraite internationale à l'âge de 36 ans. Son frère Nicolas avait fait de même il y a quelques mois, c'était après les Jeux Olympiques. Faut-il des instruments de musique traditionnels pour donner un concert ? Eh bien pas forcément, des tubes de PVC, des bouteilles vides ou encore un frigo peuvent faire l'affaire. C'est l'univers musical farfelu du groupe Les Faux Plafonds, originaire du Maine-et-Loire, groupe qui remplace des instruments traditionnels par des objets du quotidien. Ils cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux avec leurs vidéos et ils se produisent sur scène en ce moment à Paris. Adrien Serrière.
8 musiciens sur scène, mais aucun vrai instrument. Dans un décor de ruelle à l'ambiance cartoon, la musique peut jaillir de l'objet le plus banal. Marlène Pécaud et Les Faux Plafonds appellent ça des instrucs.
Ça peut être des objets qui sont pris dans leur état d'origine, un grille-pain, un frigo, mais ça peut aussi être ensuite des objets qu'on transforme, auxquels on rajoute d'autres objets et le tout va former un nouvel instruc.
Avec une planche à repasser, des gants en latex et beaucoup d'imagination, on obtient par exemple la gantinette basse.
On rigole beaucoup à chercher les sons.
Fabrice Guilbeault, prof de musique, bricoleur et membre de la troupe.
Des fois, on peut passer vraiment beaucoup de temps. Ça peut être très long à trouver le son qu'on veut. Et des fois, ça vient tout de suite. Et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment qu'à chaque fois, les gens se disent « qu'est-ce qu'ils vont nous ramener maintenant ?» Parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, du début à la fin. C'est notre défi, en fait, pendant ce spectacle, c'est ça.
Les Faux Plafonds nous entraînent dans leur joyeuse folie créative à travers des reprises de tubes mondialement connus, rock, pop ou classique, mais toujours 100% recyclés.
Ed Sheeran, bien sûr, repris par Les Faux Plafonds qui sont à Paris, théâtre le 13e mars jusqu'au 1er mars, avant une tournée partout en France. Et puis nous avons besoin de vous, vous, les auditeurs lecteurs du 13-14, pour devenir juré du prix du Livre Inter. Vous serez 24, 12 hommes, 12 femmes. Vous déposez votre candidature jusqu'au 10 mars, soit via le site de France Inter, soit en nous écrivant par courrier France Inter Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy. Surtout, expliquez-nous pourquoi vous voulez nous rejoindre. Soyez nombreux à nous écrire. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Humide aujourd'hui. Puis à partir de 13h30, l'historien Léandre Mandard avec nous. Il travaille depuis plusieurs années sur l'histoire du remembrement dans nos campagnes, ces parcelles regroupées avec ou sans l'accord des paysans qui les possédaient. Histoire un peu tombée dans l'oubli, c'est vrai, et qui remonte à la surface. 01 45 24 7000 pour vos appels. 13h45, c'est notre feuilleton avec les voix françaises des stars américaines de nos séries et de nos films. C'est la voix de Julia Roberts qui est toujours avec nous. 13h50, c'est la France et c'est une chanson Cyril Petit du jour Journal Ouest France et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, de Quimper dans le Finistère à Albi dans le Tarn, en passant par Vichy dans l'Allier, on fait des tours de manège. Je vous emmène à la fête foraine.
Tournée manège avec vous et avec vous, Frédéric, une exploratrice.
Une aventurière suisse, Sarah Marquis, qui vient de publier L'étincelle du désert, récit de sa dernière expédition. Et avec elle, nous écouterons la Canadienne Avril Lavigne, qu'elle a découverte grâce à un petit garçon rencontré alors qu'elle traversait le désert australien.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Je me posais des questions sur le partage de la valeur pour mes salariés. Elodie, ma conseillère Banque Populaire, m'a proposé une solution d'épargne salariale sur mesure, rapide à mettre en place et que je peux piloter en ligne. C'était simple et surtout, ça a fait des heureux.
Accompagner nos clients sur tous les territoires avec des solutions adaptées à leurs besoins, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
France Inter, partenaire de À Bicyclette, un film de Mathias Mlekuz.
On refait le voyage qu'a fait mon fils. Il est parti de La Rochelle, il a fait un voyage à vélo et il était jusqu'en Turquie.
Après la disparition tragique de son fils, Mathias embarque son meilleur ami Philippe dans un voyage à vélo.
J'ai eu cette idée de refaire le chemin pour continuer à le faire vivre.
Une épopée lumineuse qu'ils traverseront avec humour et émotion.
C'est une chemin triste, hein, c'est une route de la vie.
À Bicyclette, avec Mathias Mlekuz et Philippe Rebaud au cinéma le 26 février, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Pluie et averse au programme cet après-midi.
Oui, une perturbation bien active traverse le pays. Les pluies seront régulières et parfois soutenues de la Haute-Normandie à l'Île-de-France, au centre-Val de Loire et à l'Allier, jusqu'aux frontières du Nord et du Nord-Est. Il faudra en plus composer avec de bonnes rafales de vent, notamment entre le Jura et le Nord-Auvergne. La couche nuageuse sera moins compacte entre les Alpes, le Lyonnais et l'arrière-pays provençal, mais les averses seront nombreuses, en particulier sur le relief, avec une limite plus neige vers 1500 mètres d'altitude. Des averses circuleront aussi en Corse, entre la Bretagne, l'Aquitaine et la vallée du Rhône, mais elles seront temporaires et localisées. Sous l'impulsion de la tramontane, les plaines du Languedoc-Roussillon seront même plutôt épargnées en gardant un temps sec avec de timides éclaircies. Pour trouver du soleil, il faudra se trouver sur le flanc ouest, entre les Landes, la Charente-Maritime et la Bretagne. Et puis la baisse des températures se poursuit, les maximales restent tout de même voisines des normales de saison. 7 à 12 degrés sur la moitié nord, avec 9 degrés pour Lille et pour Paris, ou encore 10 degrés pour Lyon. On attend 10 à 16 degrés plus au sud, avec 15 degrés à Marseille et à Nîmes.
Sébastien Léas, météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Léandre Mandard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant en histoire au Centre d'histoire de Sciences Po Paris. Et on va parler d'agriculture avec vous, puisque vous préparez en ce moment une thèse consacrée au remembrement que vous qualifiez de révolution dans le bocage. Vous avez été conseiller historique pour la BD enquête Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, signée Inès Léraud et Pierre Vanneuve, BD qui est sortie à l'automne dernier et qui est encore en tête des ventes. Près de 100 000 exemplaires vendus en quelques mois. 01 45 24 7000 pour être avec nous pour parler remembrement, agrandissement de parcelles, arrachage de haies. J'en appelle à vos souvenirs personnels ou souvenirs de famille. D'ailleurs, on peut aussi parler plantation de nouvelles haies, puisque le Sénat a adopté il y a deux semaines une proposition de loi en ce sens. Objectif: 100 000 km de haies en plus d'ici 25 ans. On va se demander si on a changé d'époque. Avant cela, Léandre Mandard, question d'actualité. Est-ce qu'on parle haies et remembrement au Salon de l'agriculture? Je crois que vous y êtes rendu ce week-end. Est-ce que vous avez eu ces échanges avec vos interlocuteurs?
Alors, je m'y suis rendu avec mes parents, effectivement.
Ouais. Qui sont agriculteurs, je ne l'ai pas précisé.
Ils sont éleveurs laitiers, retraités maintenant. Uh-huh. Mais... Alors, j'ai pas eu l'occasion spécifiquement de parler de remembrement avec des gens sur place.
Mais est-ce que c'est toujours un sujet dans la génération actuelle d'agriculteurs, ou bien finalement c'était l'affaire des années 50, 60, 70 et on a tiré un trait, on a mis un mouchoir sur cette histoire souvent douloureuse?
Alors, le remembrement au sens strict est terminé, en fait, hein, même s'il y a toujours une dynamique de disparition du bocage. C'est un phénomène sur un temps long.
On perd toujours des haies dans notre pays.
Actuellement, ouais, en dépit des replantations qui sont quand même importantes. Mais aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui expliquent la disparition de ces haies. Il y a les agrandissements des exploitations que vous avez mentionnées, effectivement, puisque quand deux exploitations fusionnent, eh bien, on tend en général à supprimer les haies qui séparent les parcelles des anciennes exploitations. Il y a aussi le recul de l'élevage bovin au profit des cultures, puisque autant les haies ont quand même pas mal d'utilité pour l'élevage, autant pour des cultures, elles gênent les machines. Et du coup, ces évolutions expliquent effectivement que le bocage disparaisse encore.
Vous êtes fils et frère d'agriculteurs, c'est votre histoire personnelle qui vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet majeur, mais très peu traité, au fond.
Tout à fait. Alors oui, je pense que je suis un enfant du bocage.
Ouais.
J'ai grandi dans une exploitation laitière avec pas mal de haies.
En Bretagne,
en Ille-et-Vilaine. Donc une commune par ailleurs qui n'a pas été remembrée. Et évidemment, ça m'a amené à m'intéresser à l'histoire de l'agriculture. Et j'avais été très étonné, tout comme Inès Leroux, de constater qu'il y avait eu très peu de travaux récents, et notamment en histoire, en sciences humaines, sur ce remembrement, qui a pourtant été un pilier de la modernisation agricole, qui a transformé considérablement l'agriculture et les paysages.
La vie des hommes et la France, telle qu'elle est aujourd'hui sous nos yeux. Un dernier mot avant d'accueillir notre premier auditeur. Plus de 100 000 exemplaires vendus pour cette BD enquête. Comment vous expliquez le succès ? Sujet intéressant, mais il y a plus vendeur qu'une histoire enfouie du remembrement.
Alors, je pense que c'est un sujet qui parle quand même à beaucoup de monde, parce que beaucoup de personnes ont pu voir les conséquences de ce remembrement dans leur campagne.
Ouais.
Et c'est une histoire, en fait, qui a vraiment marqué considérablement les populations sur place, et une histoire qui n'a pas été écrite. Et donc, il y avait vraiment une demande sur ce sujet-là. Et c'est en souhaitant répondre à cette demande que cette BD et ma thèse ont été lancées.
Jean-Paul est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Bretagne, Riac-sur-Belon, Bretagne.
Là, on est dans le Morbihan, dans le Finistère ?
Finistère.
Nous vous écoutons, Jean-Paul.
Oui, là, j'étais particulièrement intéressé par l'émission, dans le sens où, dans ma vie personnelle, j'ai 73 ans, j'ai vécu 4 remembrements. Et en prenant un peu le recul, j'ai vraiment l'impression d'avoir fui devant ces phénomènes-là, hein, pour venir m'installer en Bretagne, où, dans certains endroits, la nature est restée à peu près intacte.
Vous les avez vécues en tant qu'agriculteur ou en tant que simple habitant ?
Non, justement, alors comment ? Je fais partie de cette génération qui était un peu bicéphale, c'est-à-dire, à la suite de l'exode rural, on avait, on va dire, un pied dans le milieu rural et un pied dans le milieu citadin. Et tout enfant et adolescent, bah, dans le milieu rural où je vivais, et dans la suite, dans ma vie d'adulte, j'ai été confronté à ce remembrement qui était chaque fois pour moi, et même pour mes enfants, un cataclysme, quoi, parce que c'était un bouleversement du paysage. Mais bon, ça, c'était... Et puis de la biodiversité.
Merci Jean-Paul, merci pour ce témoignage. Léandre Mandard, concrètement, c'est quoi un remembrement ? C'est un bulldozer qui arrive et qui arrache des arbres, qui arrache des haies par kilomètre ? C'est comme ça que ça s'est passé ?
Alors ça, c'est un des aspects du remembrement, parmi les plus visibles, effectivement. Mais le remembrement, en gros, ça vise à transformer une mosaïque assez désordonnée de petits champs un gros carrelage de champs bien droits, plus grands, mieux regroupés autour des exploitations et adaptés surtout au matériel moderne, aux tracteurs, aux grandes machines. Et pour ce faire, on organise à l'échelle d'une commune un échange généralisé et obligatoire des parcelles. Et dans les régions de bocage, comme l'Ouest, la Bretagne, le remembrement détruit aussi ce qu'on appelait à l'époque les obstacles à l'utilisation rationnelle du sol, donc les haies, les talus, les chemins crus.
Alors, notre auditeur Jean-Paul nous appelle de Bretagne, c'est aussi votre région d'origine, mais le remembrement, ça a eu lieu dans beaucoup de régions de France, Léandre Mandard. L'enquête, elle vous conduit dans les Ardennes, dans la BD, en Champagne, on parle de la Beauce, on parle de la Haute-Vienne.
Oui, alors il y a eu sur une trentaine de millions d'hectares de surface agricole en France. Il y a eu 18 millions d'hectares remembrés. Bon, c'est un chiffre qu'on peut nuancer parce qu'il y a il y a pas mal de communes aussi qui ont été remembrées deux, trois, voire trois fois dans certaines régions. Mais c'est surtout la moitié nord qui a été très remembrée, le bassin parisien en premier, et y compris des régions bocagères comme le Limousin, par exemple, aussi.
Pourquoi moins le sud de la France ?
Alors, pour des raisons diverses, c'est que dans le sud, il y avait un morcellement moins accusé.
Les parcelles étaient déjà plus grandes ?
Elles étaient dans certains endroits plus grandes, mais il y a aussi beaucoup de régions assez montagnardes dans le sud de la France où on n'a pas développé un modèle agricole très intensif. Au contraire, des modèles plus extensifs où le remembrement s'avérait donc moins nécessaire dans cette perspective-là.
Et ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'il y a eu des résistances, il y a eu des batailles, il y a eu des mobilisations d'habitants pour s'opposer à ce remembrement qui s'est fait souvent par la force et avec des paysans, des propriétaires qui perdaient leurs parcelles. On disait, tu rends ta parcelle, t'en prends une autre, tant pis si t'as plus de pommiers, c'est comme ça.
Et oui, c'est ce qu'on a bien voulu mettre en exergue avec Inès Leroux, c'est que c'est pas seulement une histoire de destruction écologique, le remembrement, ça, c'est aussi une histoire sociale avec... des contestations paysannes très fortes, toute une frange de la paysannerie qui a contesté le remembrement parce qu'elle n'y voyait pas un intérêt, parce qu'elle s'estimait lésée par cet aménagement. Et effectivement, dans la procédure de remembrement, tendait en général à léser un ensemble de profils d'agriculteurs et à en avantager d'autres, et donc à organiser peu à peu un monopole du contrôle de la terre en faveur de certains profils d'agriculteurs et les plus productifs.
Et on se souvient, grâce à vous, dans cette enquête, que c'est un certain François Mitterrand, alors ministre sous la 4e République, qui défendait le remembrement et la répression des paysans par les forces de l'ordre. Nous sommes en ligne avec Dominique. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de la Bresse, nous vous écoutons.
Oui, bonjour. Écoutez, je suis éleveur de volailles de Bresse. Je suis agriculteur aujourd'hui. Et moi, j'ai vécu le remembrement quand j'étais enfant. Je pense que c'est dans les années 76. Moi, je suis né en 76, donc dans les années 80. J'ai lu. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Il y a eu le regroupement des parcelles.
Vous êtes éleveur, vous, Dominique, c'est ça, hein ?
Comment ?
Vous êtes éleveur ?
Ouais, je suis éleveur, moi.
Éleveur de poulet ?
Éleveur de poulet de Bresse.
Sans remembrement, est-ce que vous pourriez produire aujourd'hui dans les mêmes conditions ?
Le remembrement a permis des choses, on est d'accord, ça a permis d'avoir une agriculture plus productiviste. Par contre, elle a fait des dégâts sociaux, je pense, qui sont non négligeables. Aujourd'hui, nous, ça a été, dans les années 80, c'était la guerre dans notre commune, quoi.
C'est-à-dire
ce qui est dans la BD reflète mais exactement ce qui s'est passé, quoi. Ça a été la guerre et aujourd'hui, on a la nature a bien sûr été marquée. Bon, ça a permis de produire. Par contre, au niveau social, les histoires sont toujours là.
Ça veut dire qu'il y a des gens dans votre commune qui peut-être ne se parlent plus depuis cette époque ?
Ah ouais, je pense qu'il y a eu un clivage qui s'était fait à l'époque. Et ce que la remarque que vous avez faite en disant que ça a permis de privilégier certaines productions et d'autres, mais c'est exactement ça en fait. Et aujourd'hui, je pense que, pour rebondir, la PAC va dans ce sens aujourd'hui encore.
La politique agricole commune ?
Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on continue, le remembrement est en train de se faire, mais sans besoin de l'État. Aujourd'hui, c'est la PAC qui fait que la productivité encore est toujours là, et on encourage encore, via la PAC, bien sûr, à toujours agrandir, la parcelle d'à côté, tant pis, on arrache le talus et on agrandit, et on continue. Et nous, l'élevage est en train de disparaître, quoi. Et puis, aujourd'hui, on voit que en 2025, l'impact climatique, on en parle tous les jours, quoi.
Merci Dominique pour ce témoignage. Je vais faire réagir Léandre Mandard. Effectivement, ça a quand même permis de produire plus, le remembrement. Le décollage économique d'une région que vous connaissez bien, qui est la Bretagne, il se produit à cette époque-là. Il y a beaucoup de Bretons qui sont sortis de la misère aussi parce que l'agriculture bretonne s'est développée durant les Trente Glorieuses.
Alors, certes, le modèle agricole breton aurait pu difficilement exister sans remembrement, et ça a vraiment été très structurant. Après, le récit qui est en général fait de tout ça, c'est effectivement la profession agricole s'est auto-organisée pour sortir de la misère et nourrir la France et nourrir le monde, mais en fait, c'est aussi l'histoire d'une imposition.
C'est venu par le haut, c'est ce que vous dites ?
Par le haut, d'une intensification qui sert aussi des intérêts géopolitiques supérieurs. C'est très visible, notamment à partir de l'arrivée au pouvoir de Gaulle en 58. Et les contestataires du remembrement, eux-mêmes, n'étaient pas contre une évolution. Des aménagements.
C'était pas le principe même du remembrement d'agrandir les parcelles qui posaient problème, plutôt la manière avec laquelle il était fait et l'imposition.
Voilà, les contestataires demandaient plutôt des échanges amiables qui sont plus lents, mais plus démocratiques et plus respectueux de l'environnement aussi.
Est-ce qu'on remembre toujours aujourd'hui ou pas, Léandre Mandat?
Alors aujourd'hui, il n'y a plus de remembrement rural comme dans la seconde partie du XXe siècle. Il y a cependant des aménagements fonciers qu'on appelle des AFAF qui sont quand même. On n'est plus dans les mêmes échelles massives qu'autrefois. Et donc, par rapport aux haies, effectivement, il y a d'autres dynamiques de long terme qui jouent.
On apprend et on voit aussi dans la BD à quel point on a pu perdre le lien avec la nature, connaître les oiseaux. Par exemple, quand il n'y a plus de haies, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont perdu aussi un savoir-faire. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le reconquérir, ce savoir-faire et cette connaissance, dans les prochaines années, avec la volonté de planter davantage? Il y a des plans qui sont mis en place. PLANS.
Certes, c'est très bien de replanter et c'est sans doute une nécessité, mais le bocage et les haies ne font sens que dans une agriculture paysanne. Mmh. En fait, et si il n'y a pas l'agriculture, le modèle agricole globalement qui change, eh bien les haies sont difficiles à faire accepter.
Et ça n'aura aucun sens. Dernière question pour vous, plus personnelle, vous préparez une installation agricole? Je crois, en plus de votre travail de thèse en ce moment sur le remembrement, de thèse d'historien.
Alors effectivement, j'ai passé une formation agricole, un BPREA l'année dernière, avec le projet de m'installer dans les prochaines années.
Pour faire quel type de production, vous savez ?
Élevage bovin.
Élevage bovin, et donc en Bretagne, je suppose.
Oui.
Eh bien, pleine réussite dans cette entreprise. Léandre Mandat, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je renvoie à la BD Champs de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, c'est chez Delcourt, signé par Inès Léraud et Pierre Vanhoeven. Il me reste 2 secondes.
Ouais. Et si les gens veulent m'envoyer des témoignages et des archives, ils peuvent m'écrire à l'adresse mail suivante.
Allez-y.
contact.remembrement@gmail.com.
contact.remembrement@gmail.com. C'est dit, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous passons notre semaine dans la vie de comédien de doublage, avant Brad Pitt. Demain, nous sommes toujours aujourd'hui avec la voix de Julia Roberts, Céline Monsara, qui double la star américaine en français depuis le film Pretty Woman. Mais elle prête sa voix à bien d'autres activités nécessaires pour vivre de ce métier.
Le doublage, c'est une branche de ce métier qui apporte beaucoup ensuite quand on se retrouve sur un plateau de tournage ou sur un plateau de théâtre, parce que ça apprend l'immédiateté du sentiment. On n'a pas le temps de se poser 10 000 questions pour habiter un personnage. Donc il faut y aller.
Je te laisse me mettre en position tranquille. Je vais juste régler le micro comme il faut.
Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre. Je continue à en faire, pas assez à mon goût, mais bon. Je fais de la pub, des documentaires, du doublage, des choses très, très variées. Et c'est très enrichissant. Chaque discipline enrichit l'autre. Puis bon, moi, je suis une des 2 voix de Rire et Chanson. Et puis une des 4 voix d'M6. Puis parallèlement à ça, plein d'autres choses.
Et aujourd'hui, vous diriez qu'il y a, je ne sais pas quelle proportion de Julia Roberts par rapport au reste de votre travail ?
Bah écoutez, depuis quelques temps, elle tourne moins. En tout cas, moins de films arrivent en France. La dernière chose que j'ai faite, c'était une série policière australienne. Voilà, mais sinon, pour ce qui la concerne, le dernier film que j'ai enregistré, c'était donc Le Monde Après Nous. Mais bon, j'attends, j'espère qu'il va y en avoir d'autres vite.
Donc là, c'est un documentaire animalier qu'on va regarder et on va vous écouter.
Alors,
et donc vous êtes assise, le micro devant vous, ouais, et l'écran qui vous montre les images.
Ouais.
Et vous allez avoir le texte à lire.
Ouais. Il existe un lieu aux horizons immenses et au ciel infini. Une terre faite de poussière et d'herbe, à la fois promesse de vie et de mort. La savane africaine.
Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il peut y avoir une certaine inquiétude, une source qui peut se tarir, notamment le cinéma, qui implique cette diversification obligatoire ? Est-ce que, concrètement, vous travaillez moins aujourd'hui que dans les années 90 ?
Oui, je travaille moins, mais aussi parce qu'il y a moins de rôles pour les femmes de mon âge, que ce soit à l'image ou vocalement.
Vous avez quel âge aujourd'hui, je peux vous demander ?
Aujourd'hui, précisément, c'est mon anniversaire.
Ah ben, bon anniversaire !
Merci, et j'ai 71 ans. Et c'est épouvantable ! Comment je peux avoir 71 ans ? Je ne comprends pas. Je vous le demande, hein. Je ne sais pas.
Très souvent, occuper une position dominante exige de l'intelligence, de l'habileté, du courage et un esprit solidaire. Autant de qualités qui caractérisent les matriarches.
Okay. Vous diriez qu'il y a plusieurs voix dans votre voix ?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que, en fait, c'est des choses qu'on fait dans l'animation beaucoup. Moi, j'ai été la schtroumpfette.
Moi, je suis une schtroumpfette.
Une schtroumpfette ?
Vous n'en avez jamais vu ?
Non.
Donc, évidemment, je n'ai pas la même voix quand je double la schtroumpfette, quand je double Julia Roberts.
Est-ce que vous aimez votre voix ?
C'était compliqué au début, et puis je m'y suis faite, heureusement. Je sais que j'ai une voix que les gens apprécient, et j'ai des retours de gens adultes qui me disent des trucs qui sont très, très... à la limite bouleversant, de gens qui vous regardent avec des larmes dans les yeux, en vous regardant comme une espèce de doudou. Donc je me dis qu'elle ne doit pas être désagréable. Je ne sais pas.
Pas de frustration d'être derrière devant la caméra
micro, de ne pas être devant non, aucune. On a des palettes énormes quand on fait du doublage. Donc ça, c'est une richesse magnifique. Donc non, aucune frustration. Je pense qu'on est là où on doit être. On n'est pas là par hasard.
Céline Monsarrat, la voix française de Julia Roberts, avec Cécile Bideau. Julia Roberts qui recevra vendredi à Paris un César d'honneur.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50 le mardi. Cyril Petit nous raconte ses petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de fêtes foraines.
Et je vous emmène à Quimper dans le Finistère pour vous faire tourner la tête. Jusqu'à dimanche se tient une des plus grandes fêtes foraines de Bretagne, le Luna Park, avec 80 attractions et manèges. Alors la nouveauté la plus remarquée cette année, car il n'y en a que 4 dans le monde, le Flasher. 70 mètres de haut et une rotation à 140 km/h, il ressemble à une éolienne à deux bras et d'en haut, on voit à des kilomètres. Impression lue dans Ouest France, j'ai mal au cœur juste en le regardant tourner, confie Isabelle les pieds sur terre. J'avais l'impression de m'envoler, témoigne Théodore la tête en l'air. Un autre manège, le Flipper, lui, vient ici depuis plus de 30 ans. Ses nacelles tournent sur elles-mêmes sur un plan incliné. Mais rassurez-vous, on y trouve aussi une maison hantée, une chenille, des pommes d'amour et la pêche au canard. Bref, tous les classiques d'une fête foraine.
Et il y en a plus d'une en ce moment.
Oui, et les vacances scolaires sont propices aux fêtes foraines. Parmi d'autres, il y en a actuellement à Aix-en-Provence, à Vichy ou à Chalon-sur-Saône. Celle de Pontivy fête ses 145 ans. Alors, selon Stéphane Dubief, secrétaire général de la Fédération des forains de France, environ 30 000 communes en accueillent chaque année, géantes, moyennes ou mini. Il m'a précisé qu'une fête foraine commence en effet à partir de 3 attractions ou stands, par exemple un carrousel, un tir à la carabine et un snack. Parfois, elle a lieu à l'occasion d'un festival, d'une braderie ou d'une course. Alors, pour les grandes foires, c'est une ville dans la ville qui se crée. À Agen, plus de 250 enfants et adolescents ont même été invités par la municipalité. À Alençon, une messe catholique a été célébrée le 15 février au milieu des auto-tamponneuses. Et d'avril à juin se tiendra la plus grande fête de France qui existe depuis l'an 957, la Foire du Trône à Paris. 300 attractions et 3 millions de visiteurs en 2 mois et jusqu'à 100 000 chaque jour, décompte le Parisien.
Et comment se portent nos fêtes foraines, Cyril ?
Eh bien, leur nombre diminue, m'indique la Fédération des forains. Exemple en Bretagne, dans la région, 250 fêtes foraines ont disparu en 30 ans, a confié Martial Gouin, le président de l'association Luna Park. Alors, les causes, baisse du nombre de bénévoles, disparition de comités des fêtes ou encore crainte de nuisances de la part de municipalités. Certaines les sortent ainsi des centres-villes. Alors, avec un contre-exemple, et parmi d'autres, notamment à Albi, où se trouve actuellement le forain Stéphane Dubief qui raconte, il y a 200 attractions, 140 forains et 1 km de fête en plein centre-ville. Et puis, si les accidents sur les attractions sont rares, ils peuvent aussi nuire à la fête foraine concernée de manière assez durable.
Et puis, il y a la question du pouvoir d'achat.
Oui, un tour de manège enfant, c'est en moyenne 2,50 euros ou 3 euros. Pour une attraction adulte, comptez plutôt 5 ou 6 et ça peut monter jusqu'à 12 euros. Mais on peut venir simplement pour flâner, partager une ambiance sans se ruiner, complète le secrétaire général des Forains de France qui met en avant le vivre ensemble avec un public familial en journée et plus jeune le soir.
Au fond, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on vient chercher à la fête foraine, Cyril ?
On ne sait pas trop, justement, répond dans Ouest France le sociologue et économiste Arnaud Lemarchand qui s'est penché sur le sujet. On vient y chercher une surprise, probablement aussi des rencontres. On vient y faire des expériences nouvelles et intenses pour se faire peur et montrer qu'on est courageux. Ce sont les jeux du vertige.
Les succès des fêtes foraines restent donc mystérieux. Merci Cyril Petit. Du journal Ouest France, de C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, on va monter dans le manège. C'est une aventurière suisse. Elle s'appelle Sarah Marquis.
Une aventurière qui, depuis maintenant 25 ans, explore à pied les environnements les plus isolés de la planète. 4 mois et plus de 4000 km sur le sentier de la crête du Pacifique qui relie la frontière mexicaine à la frontière du Canada. 8 mois et plus de 7000 km dans la cordillère des Andes. Elle a récemment sorti son 10e livre, L'étincelle du désert, chez Michel Lafon. Un livre où elle raconte sa dernière expédition dans le désert australien. Et c'est à sa première expédition dans ce même désert australien que la ramène la chanson dont elle a souhaité me parler. 17 mois et plus de 14000 km. C'était en 2002.
Je pars du centre de l'Australie, dans un endroit appelé Alice Springs, et je vais faire tout le tour de l'Australie à partir de ce point-là pour revenir à Alice Springs. Et ce qui était incroyable dans cette expédition, c'est que c'était la première. Donc on ne sait pas ce qu'on fait, c'est l'inconnu à chaque pas. Et je me suis retrouvée à un moment donné à avoir mon anniversaire. Je suis partie le jour de mon anniversaire et j'avais de nouveau mon anniversaire. J'ai réalisé qu'il y avait une année qui était passée. Et ça correspond exactement au moment où j'ai traversé cette partie de l'Australie qui est au sud, qui commence à Ceduna et ça s'arrête à Norseman, qui est à l'opposé. Et la distance entre ces deux, c'est 1200 km. Ça s'appelle la Nullarbor Plain. Et je suis en train de traverser cette plaine. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'humain. Il n'y a pas vraiment de végétation. Il fait très froid à ce moment-là. J'ai mon chien que j'ai sauvé il y a une année en arrière avec moi, qui a froid. Je trouve une vieille couverture au bord de la route. Et il y a des tanks avec de l'eau, tous les 200-300 km. Et un de ces tanks, à un moment donné, il y a une voiture qui me passe très rapidement devant moi. Et tout d'un coup, je vois cette voiture qui fait marche arrière. Et là, il y a la vitre qui s'ouvre. Il y a un gamin à l'arrière. Et il me dit, ça c'est pour toi. Et il me donne un Walkman. Et le papa m'explique que c'est son enfant qui a voulu faire demi-tour parce qu'il a dit, c'est pas possible, elle est trop seule, je vais lui donner mon Walkman. Et il m'a donné ce Walkman. Et dans ce Walkman, il y avait Avril Lavigne. Chill out, what she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are. When we're driving in your car and you're talking to me one on one, but you become somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated.
Cette chanson, Frédéric, a pour titre Complicated. Elle est sortie sur le premier album d'Avril Lavigne.
Un album qui, grâce à ce petit garçon qui lui a donné son Walkman, a donc accompagné Sarah Marquis dans sa longue traversée du désert australien. Elle qui, en temps normal, n'écoute jamais de musique lors de ses expéditions.
Ce petit CD avec 14 chansons, ça m'a transporté à travers cette Nullarbor Plain de 1200 km où il faisait froid, un vent frontal. Et ce gamin, il avait raison, il m'a donné la force de traverser cette Nullarbor Plain qui est vraiment une épreuve pour les gens qui connaissent cet endroit.
Il ressemblait à quoi ce petit bonhomme ?
Il avait, je pense, 8-9 ans, pas plus. Et sans le savoir, il m'a aidé, poussé par son élan de générosité aussi, on va le dire, parce qu'un gamin qui a un Walkman à lui, on ne va pas essayer d'enlever un iPod à un gamin maintenant, ou un téléphone, donc c'est un élan de générosité et d'empathie par rapport à quelque chose, et ça c'est la beauté de tout ça en fait.
You will see somebody else, round everyone else. You're watching your back, like you can relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me.
Vous avez pu l'écouter beaucoup, cet album ?
Ah, je l'ai écouté en boucle pendant plus d'un mois et demi, ouais.
Donc les piles ont permis à ce lecteur de CD de fonctionner pendant un mois et demi.
Exactement, ouais, ouais. Alors, pas toute la journée, on est d'accord, hein, mais j'utilisais à petite dose, comme petit booster par moment, ouais. Par contre, je pense que rien n'arrive par hasard. Et je pense que cette petite rencontre avec ce petit personnage incroyable, à ce moment-là, dans ce désert-là, j'avais besoin de ça. Et la vie, elle est comme ça. Elle nous donne ce qu'on a besoin au moment où on a besoin.
Cette chanson, elle vous mettait dans une vraie énergie ?
Complètement, voilà. Et de temps en temps, elle repasse par hasard sur des stations de radio et instantanément, je suis de nouveau sur la Nuit à Bourg Pleine. Et ça, c'est la force de la musique.
Complicated, Avril Lavigne. C'était donc, Frédéric, le choix de l'aventurière suisse Sarah Marquis.
Sarah Marquis, dont le dernier livre, L'étincelle du désert, vient de paraître chez Michel Lafon.
Vous savez ce qui serait bien, Frédéric Pommier ? C'est qu'un Australien qui a maintenant un peu plus de 30 ans écoute cette chronique et des nouvelles, grâce à vous, de Sarah Marquis.
Peut-être demandera-t-il à récupérer Swagman.
Peut-être, dans quel état est-il ? À demain, Frédéric. Bonjour Mathieu Vidard.
Jérôme Cadet, bonjour.
Quel est le programme ?
On va parler de l'envers des fripes aujourd'hui.
À tout de suite.